pensait que c'était fini. On pensait que c'était perdu. On pensait pas vous retrouver comme ça, 2 ans après.
Mais on s'est retrouvés, ici, à Paris, dans les nouveaux locaux.
Dans le 11e. On donnera pas l'adresse exacte. Parce que depuis...
S'en est passé des choses.
Certains ont... cru, bon... de dire que... j'avais créé un nouveau Cambridge Analytica à la française. D'aucuns ont cru que... Jean-Luc Mélenchon allait passer et que les courbes allaient s'inverser. On a cru que Arnaud Montebourg serait le candidat de la gauche.
Qui l'aurait cru ?
On a pensé que Mathieu Sapin ne resterait qu'un nom parmi enfermé dans un podcast comme une référence et que jamais on ne verrait le vrai visage du petit bonhomme.
On pensait que Bastien Vivès serait un des grands.
Un des grands. Un des grands de ce monde. Bastien Vivès, désolé, nous avons fait la promotion... visiblement d'un homme problématique. Nous ne savions pas tout ça. Nous ne pouvions pas savoir tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve, des années après, dans un bureau. Est-ce que tu peux me décrire ce bureau, Greg ?
Un bureau, c'est un peu le bureau rêvé. Quand on se rappelle... bon, je vais tempérer. Quand on se rappelle un peu de qui on était, quand on était des étudiants... à Montréal, dans des petits studios sous la neige, et qu'aujourd'hui on est à Paris, dans des bureaux qui nous entourent de symboles qui nous ont portés
pendant longtemps. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode inédit. 2 ans et demi après, on a retrouvé les codes. Vous écoutez encore et toujours
Absurde et Acerbe.
Ce sont de véritables phénomènes du web. Leurs vidéos sont vues des millions de fois sur YouTube ou Dailymotion. Vos ados en sont fous. Et si ça se trouve, vous ne les connaissez même pas.
Et non.
Vous êtes sérieux ?
Et j'ai voulu, Mouloud, te faire une surprise. C'est une
anaphore.
Des YouTubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation.
Gaspard G, 19 ans.
Et Grégoire.
La censure, le politiquement correct, la bien-pensance...
Je suis en train de réaliser que c'est le jingle de l'épisode 1 que j'ai enfin de la saison 1 que j'ai balancé. À l'époque, il y avait Trudeau, tu te souviens, qui faisait "Nous sommes au Québec, donc je vais apprendre en français." Pardon pour cette appropriation culturelle. Depuis, il y a eu tout un tas de névroses qui sont arrivées dans l'écosystème. À l'époque, appropriation culturelle, ça existait ou pas, il y a 2 ans et demi ?
Bah oui, mais on en parlait.
On en parlait.
On en débattait.
On en parlait déjà. Bonjour à tous et à toutes. Gaspard G, 25 ans. Plus 19 ans du tout. Et Grégoire Maillard.
25 ans également.
25 ans également. Moi, je vais sur mes 26 là, en décembre.
Oh, waouh.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on est parti ? Pourquoi on est parti, Greg ?
Pourquoi on est parti ? Bah, on s'est éloigné. Géographiquement.
Au moins géographiquement.
Au moins géographiquement.
Bon, surtout géographiquement, en vérité.
On a chacun commencé notre vie professionnelle.
Ouais, c'est vrai, ça a été...
Deux mondes différents.
Deux mondes différents. Toi, le monde... est-ce qu'on le dit ?
On peut le dire.
On peut le dire ?
À demi-mot. Moi, dans le monde plus corporatif, je travaille dans une compagnie aérienne. Je m'amuse beaucoup à appliquer les petits concepts de microéconomie par lesquels j'étais un peu passionné dans le passé. Pour les plus nerds d'entre nous, je fais un peu du pricing, je fais un peu de la prévision, tout ça avec des avions, c'est très sympa. Ça permet de voir le monde aussi. Et toi ?
Et moi, de mon côté, bah, j'ai pas trop changé des hobbies. C'est juste que le hobby est devenu le job. À Paris, quand toi, t'es resté à Montréal, donc on s'est séparés géographiquement. On a continué le podcast pour une saison 2 à distance, puis c'est quelque chose qui tenait difficilement parce que c'était très compliqué de pouvoir concilier cette vie nouvelle... Peut-être que celles et ceux qui nous écoutent sont d'ailleurs un peu dans ces périodes-là de vie. Des périodes où tu viens de quitter l'université et là, tu sais qu'il va falloir te mettre un énorme coup de boost professionnel. C'est terminé de se lever à 10h parce que tu as séché un cours. C'est terminé tout ça. Aujourd'hui, c'est la vie active. C'est éreintant d'ailleurs comme rythme au départ. Enfin, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, les premières années, j'ai vraiment trouvé ce rythme éreintant et c'était compliqué derrière de trouver du temps pour des loisirs, pour des moments plus détente. Après, moi, j'ai eu la chance de faire un job qui était déjà un loisir en soi et qui en est devenu un. Mais aujourd'hui, on est un peu plus installé. En fait, on n'a jamais envisagé d'arrêter. On s'est jamais dit à un moment donné, on arrête Absurde et Acerbe. Absurde et Acerbe s'arrête. On s'est juste dit, à bientôt mon pote, tu vois.
Salut à bientôt, mon pote. On a fait une Michel Drucker. Non, en effet, je pense même que l'absurde de la Serbe n'est pas terminée.
Non,
ça ne sera jamais terminé.
Évoluera, apparaîtra quand il apparaîtra, peut-être renaîtra un jour, peut-être même sous un autre format, qui sait.
On ne sait pas. Non, c'est vrai, vous avez été nombreux, hein, vous étiez quelques milliers à nous écouter chaque mois. D'ailleurs, pour beaucoup, vous avez fait le switch en continuant de regarder l'histoire d'eux, qui à l'époque n'existait pas, les différentes enquêtes qui à l'époque n'existaient pas, et toute une série de choses. Certains même sont partis pour écouter les podcasts sur lesquels Greg a contribué. Qui étaient des podcasts un peu plus niche encore, mais par exemple...
On avait fait un podcast de microéconomie, justement, qui s'appelait Everyday Economics.
Everyday Economics.
Bon, si vous voulez écouter mon anglais un peu pété, je vous y invite. Mais,
ce qui était intéressant, c'est que c'était... Enfin, voilà, c'était une micro-communauté de gens qui étaient intéressés. Ça nous a permis de faire des rencontres extraordinaires. Et je pense d'ailleurs qu'il faut parler de la rencontre qui a permis Absurde et Acerbe. Et c'est Julien. Enfin, j'ai envie de parler de Julien, en fait. Mm-hmm. Julien Petier, qui a été... Est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire de la rencontre avec Julien, très rapidement, parce que le but, c'est d'abord de se retrouver. Mais est-ce qu'on peut raconter rapidement la rencontre avec Julien,
Alors, Julien, bref contexte, le Covid n'existait pas. En tout cas, la Covid allait apparaître dans quelques jours. On était, Gaspard et moi, à Montréal. On voyait cette personne, ce petit tweetos, qui parfois nous commentait nos podcasts, nos anecdotes.
Un auditeur participer. Très actif.
Exactement. Et à quel on pouvait limite s'identifier quand on regardait un peu son profil. Et tout d'un coup, la Covid arrive. Pas forcément la Covid, mais un moment de pause pour les deux prochaines semaines, peut-être le prochain mois. Et Gaspard et moi, on voulait créer à cet effet une émission live.
C'est une émission live qui s'appelait « Jusqu'à nouvel ordre », qui était repris de la phrase d'Emmanuel Macron. Qui nous disait « Nous serons confinés jusqu'à nouvel ordre ». Et d'ailleurs, tous les gouvernements s'y sont mis, Justin Trudeau également, puisque nous étions tous les deux étudiants au Québec. Et on a donc décidé de créer cette émission « Jusqu'à nouvel ordre », qui a tenu deux épisodes, puisqu'ensuite, vraiment, tout le monde a été confiné, il y avait l'armée dans les rues, enfin, c'était assez vénère. Et il se trouve que pour faire ce setup-là, il y a un jeune blondinet qui n'avait pas de barbe à l'époque, qui avait les cheveux beaucoup plus courts, qui s'appelle Julien Potier, un tweetos qui écoutait cette émission Absurde et Acerbe. Il est venu, il s'est pointé là, on est devenus très amis très vite. Ensuite, moi, il est reparti à Paris puisqu'il était étudiant en échange à McGill. Moi, je suis arrivé à Paris, ça a été un de mes premiers amis à Paris. Et on a continué cette rencontre-là qui a été de fait grâce à ce podcast. On a même produit des vidéos ensemble avec Julien. Et aujourd'hui, c'est un de mes partenaires de boulot, pas direct, puisqu'on ne contribue pas pour le même média. Julien est aujourd'hui le producteur d'Hugo Décrypte, qui est un petit média, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est fou de se dire que tout a commencé par cette rencontre-là, grâce à Absurde et Acerbe. Absurde et Acerbe a été une forme d'incubateur d'ambition de plein de jeunes gens qui avaient envie de travailler dans les médias, la politique ou autre, complètement ailleurs, dans l'économie, participer, contribuer. En tout cas, des nerds de tous ces sujets-là. Et on était trop contents pendant toutes ces années. Et on est contents de pouvoir rouvrir un peu cette boîte de Pandore aujourd'hui et de vous dire, voilà, on a voulu créer une communauté de gens qui nous ressemblent.
Vous êtes tous les deux maintenant partie du PIF.
Du PIF ? C'est vrai ?
Du paysage Internet français.
Le PIF, qui est aussi un journal communiste qui a été racheté par un mec de droite. T'as suivi ce truc-là ?
Non, pas entièrement, raconte-moi.
Non, bon, j'ai pas beaucoup plus à dire. Juste PIF, c'était la revue du Parti communiste, PIF Gadget, ouais, avec toute une série de plein de cadeaux, etc. Je vous parle de ça, c'était avant la guerre. et en fait, je crois que ça a été racheté par un pote de Macron, enfin, une espèce de mec beaucoup plus libéral. Du coup, ça perd complètement les sens et tous les cocos qui avaient abonné leurs enfants à PIF sont deg. Qu'est-ce qu'on a excusez-moi, j'en oublie les bonnes manières. Au programme de cette émission, Grégoire Maillard.
Alors qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui ?
Bah de quoi on parle ? C'est une bonne question.
Je pense que ni toi ni moi savons. Bah. C'est une émission très qui va se laisser porter, très très libre. Je pense qu'on voulait déjà parler de ce qu'on n'a pas pu parler au cours des 1, 2, 3 dernières années.
De quoi n'avons-nous pas parlé ? Voilà, c'est très compliqué. Désolé, je viens de me faire opérer des dents de sagesse. De quoi n'avons-nous pas parlé ces 2, 3 dernières années ?
Alors,
c'est
la guerre en Ukraine, les élections présidentielles.
Avec cette 2020. Musique, t'es sûr ? La guerre en Ukraine qui fait son entrée juste ici. D'ailleurs, je me suis rendu en Ukraine. Wow. On pourra peut-être en parler très rapidement.
Oui, avec plaisir.
On n'a qu'une heure, donc va falloir faire des choix éditoriaux. De la candidature avortée de Arnaud Montebourg et de Christiane Taubira. On peut parler des conflits, de ce qu'a vécu le monde. C'est très compliqué de le dire avec cette musique un petit peu entraînante derrière, mais il s'est passé toute une série de choses. Et puis on va aussi, en fin de podcast, vous faire les rocos culturels, comme on avait l'habitude de le faire, avec les dernières sorties de ces deux dernières années. À l'époque, Absurde et Acerbe était hebdomadaire, mais on est très content de vous retrouver pour cet épisode spécial. Qui aurait pu prédire le retour de la guerre en Europe, chez nos pays, chez nos voisins ?
C'est vrai que je ne sais pas si tu te rappelles, un des premiers épisodes, on parlait du slow journalisme. Exactement. Ton premier exemple de Guy Delisle qui prenait son temps pour parler des événements. J'ai l'impression qu'on fait un peu ça de la notre manière.
Slow journalism.
Du very slow.
Late journalism. On fait du late journalism. Peut-être qu'on peut commencer déjà, avant de parler de la guerre en Ukraine, pardon, je sais pas très structuré, mais vous êtes sur un podcast qui n'a pas eu le temps d'être préparé. Déjà, on va expliquer le contexte. Greg est de passage à Paris pendant quelques jours. Mm-hmm. Et du coup, on s'est dit, évidemment, comme tout bon Français qui est expatrié, qui est de passage en France, son emploi du temps est assez timé. Et donc, du coup, on n'a pas non plus masse de temps pour pouvoir faire un podcast de 3 heures. Et de toute façon, ça vous ferait chier. Mais désolé, du coup, on n'a pas eu du tout le temps de structurer. Hier, on a bouffé ensemble. On s'est dit, tiens, et si on rallumerait pas les micros juste de 11h à midi en ce jeudi. Et donc, du coup, c'est ce qu'on fait. Pour parler d'actualité, peut-être commençons par quelque chose de plus léger, la présidentielle 2022. Est-ce qu'on s'attendait à l'époque à avoir 3 candidats aussi sortis, aussi clairs dans une botte, et avoir même la candidature de Zemmour ? Est-ce qu'on en parlait à l'époque ou pas ? Je ne me souviens plus, pour être honnête.
Je pense que les candidats finalement qui sont présentés étaient un peu sans surprise. C'est un peu ce qu'on avait déjà vu en 2017 et qu'on rabibochait tout le temps dans nos discussions. Mais en effet, je pense qu'une des surprises qui s'est avérée vraie et qu'on n'en avait pas forcément parlé, c'était la candidature Zemmour.
On en parlait déjà ou pas ? Honnêtement, je ne me souviens pas. Tu sais que depuis, il y a eu Backseat aussi. Moi, j'ai fait Backseat. Enfin, il y a mes
choses. C'était incroyable,
ça. Il faut parler.
Tu as rencontré des personnes
dont on parlait quotidiennement.
Qui étaient notre sujet de discussion. Usul.
Ouais, on parlait d'Usul beaucoup dans le podcast et ça a été mon collègue, du coup, pendant 6 mois.
Ça s'est bien passé ?
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Absurde et Acerbe. Blague à part, Usul est un livre ouvert sur la gauche. C'était passionnant de travailler à ses côtés. Après, c'est un perso, quoi.
Ouais.
C'est un perso. De toute façon, il le dit sur ses live Twitch que c'est un perso et il a la langue déliée, donc je vois pas pourquoi moi j'aurais la langue liée aujourd'hui. c'était très intéressant. C'était très intéressant. Donc Backseat, on a parlé évidemment de... Tu es en train de regarder pour expliquer aux auditeurs, Greg est en train de se refaire le feed de Absurde et Acerbe.
Le dernier épisode, c'était le 1er avril 2021.
On avait dit à la semaine prochaine.
Une belle blague.
Oh mais attends, je suis en train de me rappeler les derniers épisodes. En fait, on était 4.
On a essayé différents formats. On est sûr qu'on était 3 à un moment. On a essayé avec Julien. On a essayé 4 en ajoutant Ulysse. Puis on en revient à la formule originelle. C'est vrai que dans les derniers épisodes, de quoi en parlait-on? Si on regarde les titres, on parlait des candidats pour 2022. Comme quoi, les sujets même en 2023 n'ont pas changé. On parlait de la nouvelle carte d'identité dans laquelle je m'offusquais qu'il y ait de l'anglais qui apparaisse.
C'était drôle ça.
On parlait des NFT qui ont bien changé depuis. On parlait de la carte PPDA.
Tout le monde a enfin compris que les NFT étaient un scam. Voilà. Donc c'est cool, tant mieux.
On parlait de Clubhouse.
Ah, Clubhouse. Feu. RIP.
Feu. Ad Grégoire, Ad Gaspard, au cas où, mais.
Ou Byte. Oh, tu te souviens aussi quand.
Byte, c'était incroyable.
On avait voulu, à travers ce podcast, vous mettre sur Byte tous. On voulait absolument que Byte devienne le réseau social. Et nous, on avait des hâtes extraordinaires. C'était Ad Grégoire, Ad Gaspard.
Peut-être Ad Greg et Ad Gasp, je sais plus.
Peut-être, je sais plus. Mm. Mais c'était une belle. C'était une belle. Une belle perspective.
On a testé notre pouvoir d'influence.
Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce que l'a pas fermé depuis.
Mais bon, on parlait déjà de violence policière, on parlait déjà de l'ENA situation ou l'ENA consommation.
Avec un petit. Je l'ai rencontrée d'ailleurs, elle aussi.
Ouais. Ouais. Elle est comment ?
Moi, j'ai un petit crush sur elle. Je le dis ici en podcast, personne n'écoutera, je m'en fous. Non, j'ai un petit crush sur elle. Je la trouve créative. Je la trouve. Elle a les pieds sur terre et à la fois pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Quand je l'ai rencontrée, en fait, pour vous expliquer, j'ai fait un truc qui s'appelle le YouTube Festival. C'est chaque année, YouTube organise un truc. Et il y avait 4 YouTubeurs cette année-là, c'était l'année dernière, en 2022, qui animaient le show. McFly, Carlito, Lena Situation et Gaspard G.
C'est bon pour vous ?
Et donc c'était un truc de... moi j'étais à Disneyland, hein, tu vois. Et d'ailleurs, pour la petite blague, YouTube s'offusquera pas, il n'y avait que trois loges. Et donc évidemment, moi j'avais pas de loge, du coup, puisque chacun avait sa loge. Et bon, bah du coup, c'est les plus connus qui ont eu la loge. Et il y avait une loge qui était quand même une espèce de couloir entre les loges. Moi, j'étais dans cette espèce de couloir. Mmh. Et non, Elena était superbe. On s'est descendu une bouteille de champagne avant de monter sur scène. Enfin, c'était assez fou comme moment. Je suis très, très admiratif de son parcours. Enfin, je n'ai pas trop de mots pour dire. Puis c'est devenu un phénomène encore plus installé aujourd'hui, quoi.
Mmh. Non, puis même, j'ai l'impression que même le plus le temps passe, mais il y a quand même toujours ce naturel qui est retranscrit. Elle est toujours très indépendante dans ses projets.
Oh, mec, je suis en train de voir 28 février, saison 1, épisode 6, l'autre Gaspard G. Aujourd'hui, on parle de Ganzer qui lâche son équipe. Gaspard Ganzer, qui est devenu un copain depuis.
De Parisien parisienne.
Mais qui a quand même lâché son équipe.
Oui.
Enfin, soit dit en passant.
Ses actes ne changent rien.
Sympa. Ah,
il s'est relancé. Non, il a son cabinet de communication.
Ouais, qui s'appelle Ganzer Agency, avec qui je travaille un petit peu.
Je travaille avec beaucoup de nouveaux diplômés ou tout ça, ou de personnes accès dans la communication.
Ouais, ouais, il fait un peu ses recrutements chez Sciences Po. C'est-à-dire qu'il est prof à Sciences Po, il prend des alternants qu'il transforme en CDI. Mais c'est smart en vrai. Ça marche.
Ah, bah, c'est grave smart. Aussi, là, je vois un peu dans les dernières actualités pour montrer que certaines choses ne changent pas. Il y a les élections américaines. Est-ce que ce sera Biden ou Trump ? Bon,
en fait,
on pourrait juste réécouter
l'ancien épisode, ça marche aussi. Puisque visiblement, ça ne va pas trop changer le niveau des candidats.
Il y a aussi adieu, monsieur le professeur.
Samuel Paty ?
Ouais.
Oh my
god. On en parlait déjà.
Et bah, vous pouvez réécouter avec l'IA, simplement, on fera. Et donc, ça, c'est catastrophique ce qui s'est passé avec Dominique Bernard. Malheureusement, l'actualité se répète et est devenue horriblement prévisible. On voulait vous parler, en tout cas, dans ce podcast, de politique française. On voulait vous parler un petit peu des perspectives qui ont changé, qui ont évolué depuis ces deux dernières années. Qu'est-ce qui a changé en politique en France ? Depuis, il y a eu une élection présidentielle, il y a eu des législatives, il y a les européennes qui arrivent, et puis, de manière générale, les municipales aussi dans un second temps. Et déjà, on commence à prédire des futurs remplaçants pour le siège suprême pour 2027. Qu'est-ce qui t'a surpris ces deux dernières années en politique, Greg ?
Moi, ce qui m'a surpris, en tout cas ce que j'ai vu et ce qui me... Je sais pas, limite, ce qui me dérange aussi un poil, c'est la manière dont le monde s'est polarisé, un peu avec ces trois blocs. C'était déjà un peu le cas à l'époque, mais là, c'est depuis la création de la NUPES, auquel on n'a jamais pu parler dans le podcast.
C'est vrai que c'est un terme dont on n'a jamais parlé dans Absurde Acerb, alors que NUPES, ce serait un tag word de dingue pour Absurde Acerb.
Ouais, bon, on aurait parlé, on aurait débattu, on aurait refait le monde avec ça.
On aurait presque dû avoir un jingle NUPES, tu vois.
N-U-P-E-S.
NUPES. NUP.
S. Nups.
Ça aurait pu être un jingle comme ça. On aurait pu avoir un jingle NUPES, parce que NUPES, c'est quand même une énorme blague. Ok.
Waouh.
Il y avait un pavé, il y avait une mare, je l'ai jeté dedans.
Il a poussé Grégoire dans la mare.
Et Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot avec. Est-ce que ça peut vraiment tenir cette histoire ? Est-ce que c'est pas un espèce d'écran de fumée ? Un enfumage total pour pouvoir gagner des sièges aux législatives. Et est-ce que ça peut vraiment tenir sur la durée ? Est-ce que les Européennes 2024 ne vont pas juste signer la fin de la NUPES ?
Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que la NUPES, depuis même avant sa création, depuis ses débuts de création, la droite ou les partis plus macronistes et environ, essayent de tuer la NUPES à tout prix. Genre.
C'est plutôt la NUPES qui se tue elle-même, non ?
Aussi.
Parce que peut-être,
je pense que la NUPES est remplie d'ennemis à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Mais je pense que la NUPES, en projet en tant que tel, théoriquement, elle a un intérêt et c'est une des meilleures manières pour la gauche de gagner dans le climat politique actuel. Par contre, en effet, quand on le voit, quand on l'observe, peut-être qu'il y a des divergences qui ne permettent pas que ça fonctionne correctement. Après, je pense aussi que tu as des leaders. C'est pas forcément les militants ou les gens qui seraient prêts à voter pour la NUPES. Qui sabote le projet. Je pense que tu as quelques leaders. Ça peut être Mélenchon de par un peu sa volonté d'avoir un peu tout le pouvoir. Ça peut être de la faute de Roussel de ne pas coopérer pour des raisons un peu enfantines. Ça peut être les Verts parce qu'ils sentent que dès qu'ils ont un peu un avantage, ils n'ont aucun moyen de coopérer. Je pense qu'ils ont un problème en fait, dans la structure originelle de la NUPES pour qu'il n'y ait pas un incitatif commun à rester ensemble.
Ouais, année après année, nous aussi, on s'est divisé politiquement. Enfin, je veux dire, on s'est peut-être aussi un peu éloigné politiquement tous les deux. En tout cas, sans dire, vous saurez toujours pas qui est absurde et qui est absurde dans ce podcast, ça ne changera pas. Vous ne saurez pas non plus si on est de gauche, de droite, de savoir pour qui on vote. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que tu es plus à gauche que moi. Je pense qu'on peut le dire sans...
Moi, je pense que les auditeurs de la veille aussi savaient que j'étais plus à gauche que toi, non ?
Oui, mais du coup... Oui. Oui, mais du coup, pour rappel, tu vois, pour donner un peu de contexte, oui, oui. C'est pour ça que je serais peut-être plutôt des détracteurs de la NUPES et toi plutôt dans le camp de la défense. En tout cas, dans le camp de... ne soyons pas trop durs avec eux, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais c'est vrai qu'on assiste à une scène d'anthropophagie depuis un an en fait, depuis les législatives. Olivier Faure s'était rangé après une candidature déchue et atroce de Anne Hidalgo à la présidentielle. Aujourd'hui, il commence à s'émanciper, alors même qu'il s'était rangé comme un bon petit chien, pardon, c'est un peu vulgaire, mais il s'était rangé comme un bon petit chien après les législatives. Là, ils savent qu'aux européennes, le PS a plutôt tendance à plus scorer que LFI, parce que juste dans il y a des dynamiques comme ça d'élections ou au régional, va savoir pourquoi les Républicains continuent de performer. On fait confiance aux partis historiques dans des élections dites locales. En revanche, sur des prismes plus importants, on va aller vers des structures plus jeunes politiquement. Là, les européennes arrivent. Olivier Faure veut prendre son envol. Fabien Roussel a été comparé très récemment à quoi ? Au père Doriot ?
Ah oui.
C'est pas ça ? À Doriot ?
Je ne sais pas exactement.
Qui était un coco fasciste, en tout cas, qui avait un communiste qui avait collaboré avec le régime de Vichy. Et il a été comparé à ça par nul autre que Sophia Chikirou, qui est la compagne de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, la compagne, un peu compliquée, on ne comprend pas trop la nature de leur relation, qui est elle-même dans la sauce par Mediapart, puisqu'elle a fait des fausses factures ou un gonflement de factures, en gros. Enfin, c'est énorme, hein, cette histoire. Elle faisait des extraits. Des passages de Jean-Luc Mélenchon en médias. Mmh. Elle est diffusée sur Twitter et elle facturait 300 euros la vidéo pour les Mediapart. Elle fait « C'est un peu beaucoup quand même, non ?»
C'est bon pour vous.
C'est bon pour vous.
C'est beaucoup pour vous, non ?
La droite n'a rien inventé. Et puis, il y a eu l'affaire Quatennens.
Ouf. Ah, ça aurait fait un bel épisode, ça.
Ouf, 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 ouf. Je pense qu'il faut mettre une musique pour combler ce malaise sur l'affaire Quatennens.
Une musique vite.
Mettons une Marseillaise pour retourner sur le champ républicain. Ah.
On est avec le Rassemblement National maintenant. Qui fait partie du champ républicain.
Oui, le Rassemblement National fait partie du champ républicain.
C'est la nouveauté des trois dernières années.
La nouveauté, le RN est de nouveau considéré comme un parti républicain. Et c'est même une partie de la droite, dont Sarkozy, hein, avait combattu Nicolas Sarkozy à l'époque de l'UMP. Le FN avait dit « Vous êtes comme votre père Marine Le Pen » et qui aujourd'hui dit « Avec 89 députés à l'Assemblée, pourquoi diable dirions-nous que le RN n'est pas dans le champ républicain ?»
Exactement. Puis aussi, donc 89 députés à l'Assemblée, mais aussi maintenant des sénateurs, deux vice-présidents de l'Assemblée, un monde parti qui monte un peu dans toutes les sphères politiques du pays.
Taisez-vous ! Taisez-vous pour la France !
Mais c'est vrai que cette montée, elle interroge. Pourquoi ça a monté ? Est-ce que c'est un peu, une certaine manière, une politique des macronistes qui a préféré favoriser une montée de l'extrême droite plutôt qu'une montée des différents partis qui composent la NUPES ? La NUPES qui peut-être serait un adversaire plus crédible. Est-ce que c'est peut-être volontairement la France qui d'une certaine manière, il y a un shift de la population française vers ces partis-là ? Est-ce que c'est un rôle des médias ? Est-ce que c'est,
La responsabilité est infiniment diluée. Mm-hmm. Mais c'est clair qu'on peut donner déjà une politique européenne sur l'immigration qui est faiblarde, qui ne parvient pas à résoudre des gros problèmes de crise migratoire qui aujourd'hui touchent les Français les plus vulnérables. Évidemment, Marine Le Pen n'est arrivée au second tour dans aucun des arrondissements de Paris. Mmh. Aucun. Bon, en même temps, qu'est-ce que je dis ? Les Parisiens, qui représentent aujourd'hui une partie très confortable de la classe moyenne sub, des petits bourgeois, n'ont pas voté Marine Le Pen. Qui a voté Marine Le Pen ? Eh bien, c'est la France des régions. C'est la France qui se lève tôt, c'est la France qui galère, c'est les Français les plus vulnérables. En fait, et c'est ceux aussi qui sont sujets le plus aux difficultés d'intégration d'une partie des nouveaux arrivants en France qui sont soumis parfois à faire de mauvais choix, à un mauvais système d'intégration et qui aujourd'hui en ont ras-le-bol. Et on ne peut pas aujourd'hui dire que les électeurs de Marine Le Pen sont tous des fachos. Je vois qu'il y a une partie de la gauche qui dit ça. C'est dommage parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen que tu ramènes des gens qui sont partis du champ républicain vers des partis plus traditionnels, plus modérés, moins axés sur un discours de rejet, de haine de l'autre. Parce que de rassemblement dans le Rassemblement national, il n'y a que le nom.
tu sais, je pense qu'on en parlait à une époque, je ne sais plus si on en parlait avec les micros ou sans les micros, tu sais, d'un peu de la stratégie du silence. C'est-à-dire quand il y a un scandale sur toi... Le moins tu parles, le moins Mediapart va ressortir une salle d'articles sur toi, puis le moins tu vas être cancel en fin de ligne. Je pense que Marine Le Pen et d'une certaine manière son parti jouent un peu la stratégie du silence, dans le sens où ils sont un peu absents des débats, que ce soit sur les retraites, que ce soit sur beaucoup d'autres sujets majeurs. Juste parfois mettre une petite pique médiatique ici et là. Et en fait, par rapport à la NUPES qui, elle, essaie toujours d'être un peu sur le champ de bataille, à faire les manifs, à donner des arguments, à proposer des lois, puis au final, c'est bien contre-productif pour eux. Je pense que le Rassemblement national gagne en fait à ne pas être présent médiatiquement, politiquement, puis ce qui permet de monter discrètement, mais sûrement.
Pour pouvoir en plus dire après, on ne nous invite pas dans les médias. Combien de matinales on a fait ? Et venez vous exprimer. Mais en tout cas, Jean Massier n'accueillera pas Marine Le Pen sur Backseat.
Ah.
Il l'a dit.
Mais il a accueilli Mélenchon.
Oui, il a accueilli Mélenchon.
Devant une foule qu'il a ovationnée.
Je vais faire une réponse un peu politique. Je veux rappeler à quel point j'admire Jean Massier. Jean est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un de profondément bon, gentil, moi qui m'a donné une chance assez inouïe de faire un peu mon trou sur Twitch. C'était assez important pour le dire.
Et aussi, c'est génial ce qu'il fait. Personnellement, je regarde plus en tant que juste que petit spectateur et... En fait, sa manière dont il est arrivé dans le paysage, dans le pif, comme on disait, sa manière dont il a réussi à vulgariser la politique, l'Assemblée nationale...
C'est un crack, c'est un crack. C'est vraiment un mec qui... Il est... Non mais honnêtement, c'est si un jour... Le mec, il connaît la Constitution sur le bout des doigts, il connaît toutes les institutions, les mécanismes de politique. C'est le meilleur prof d'éducation civique que tu puisses avoir dans ta vie, même quand tu penses savoir beaucoup de choses sur la politique. Le mec, il arrive quand même à te rappeler des trucs. Ceci étant dit, quand il a eu la promesse de faire Backseat, il s'est dit, tiens, je vais faire un show qui va permettre de séduire les jeunes, un talk show sur la politique, qui sera ni de gauche, ni de droite, un peu en macroniste. Et cette logique, en même temps, elle n'a pas du tout fonctionné, parce que quand tu as un Usul qui est d'extrême gauche, voire même trotskiste, hein, c'est comme ça qu'il se définit, Jean Massier, qui est un sosdem, qui fait la job, mais qui globalement a quand même été, je pense, plutôt proche de Anub dans ses idées, Léa Chamboncel sur le plateau, très proche de la ligne Sandrine Rousseau. On ne peut pas dire que le plateau planche plutôt au centre. Je veux dire, la balance est quand même assez déséquilibrée. Et moi, d'ailleurs, c'était une des logiques. C'était de dire, oh, bah, tiens, on va mettre ce petit gars un peu libéral, un peu sosdem, tendance libérale, et ça va un peu équilibrer le plateau. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas du tout fonctionné. Aujourd'hui, Backseat, c'est une émission de gauche. L'audience est de gauche. Pour séduire l'audience, il faut faire des trucs de gauche. Et donc, du coup, quand on reçoit François Hollande et qu'on lui sert la soupe, c'est un scandale. C'est un scandale.
Sur Twitter.
Et tout le monde le dit. Ouais, sur Twitter, moi, j'ai trouvé que l'interview a été très bien. Elle aurait pu être un peu plus piquante. Bon, lors des 50 ans de Libé. Mais Twitter a donné un backlash pas possible. Ça a failli coûter la carrière d'Usul, hein, d'ailleurs, qui a dû faire des mea culpa de fist d'up. On n'accueille pas Marine Le Pen sur le plateau parce que vous comprenez, ça fait monter les extrêmes dans les médias. Par contre, quand Jean-Luc Mélenchon arrive à la fête de l'UMA sur Backseat, c'est ouais.
Il y a la moula.
C'est un meeting politique, le truc.
Ça s'est transformé en meeting politique. Moi, je me rappelle des
vidéos. Les gens applaudissaient, ils étaient fous. Micro-ring
pour lui. Les gens crient, ouais, non, c'était fort.
En fait,
fort.
Ça a été... Je ne sais pas si Jean est très satisfait de cette émission, parce que ça a été la mort de la neutralité politique sur Backseat, cette séquence.
Mais je me demande, et là, peut-être, c'est une question peut-être plus générale, même pour les médias, ça peut être sympa, c'est est-ce que les nouveaux médias ou est-ce que les nouvelles émissions peuvent avoir comme objectif d'être neutres ? Tu vois, par exemple, on peut penser au Crayon, qui en général, disons, plus plutôt sur le spectre de droite, disons.
Ils te diraient pas ça, mais oui.
Ils diraient pas ça, je pense pas que ce soit leur branding. Et pourtant, et tout comme Backseat, c'était pas son branding à la base. Mais pourtant, ça s'est installé sur une place du champ politique français. Est-ce qu'un nouveau média peut être neutre ?
Bah, Hugo, il est neutre.
Ouais. Bah, déjà, c'est pas forcément le plus nouveau, c'était même un des premiers sur le champ, et je pense que c'est son créneau. PM neutre.
Moi, je crois que c'est souhaitable, en tout cas, que les médias ne soient pas militants, qu'il n'y ait pas que des médias militants.
Mmh. Bah, c'est... oui.
Aujourd'hui, d'ailleurs, un des les quotidiens les plus appréciés des Français, c'est Le Monde. On ne peut pas vraiment dire qu'il penche quelque part. Europe 1, CNews, dans un certain Libération, ce qui est des médias relativement engagés. Et puis après, si derrière, tu prends encore plus l'extrême, il y a Livre Noir, Backseat, Livre Noir, Blast, je voulais vraiment dire Blast, c'est même pas un lapsus. Livre Noir, Blast, Mediapart, eux sont des médias qui sont engagés. Je mettrais Mediapart en fait plutôt sur le côté Libération. Blast et Livre Noir sont des médias avec des candidats, sont des médias militants. Livre Noir ne va pas parler des scandales au sein de l'extrême droite. Blast ne va pas parler des affaires VSS autour de Taha Bouaf, qui a, je l'ai dit avec un accent un peu chelou, mais
ouais. C'est, pardon. Qui est en Jordanie en ce moment, je me suis tapé sur Twitter.
Il est en Jordanie.
Il a sorti un live en milieu de la manifestation pro-palestine.
Je m'en bats les reins, c'est un enculé ce mec. Franchement, je le dis, c'est un type qui a balancé des fake news sur Élise à l'époque sur Twitter.
Ouais.
C'était un fils d'up.
Bah, il avait essayé d'être aux législatives, puis il s'était fait virer pour harcèlement.
Mais oui, quel tocard. Et Blast n'en avait pas parlé. Denis Robert, cet enculé aussi. Hein, tu vois, Il va bien, Denis Robert. Non, parce que Denis Robert, il m'a envoyé des mises en demeure. Il me demandait 300 000 euros il y a encore un an.
Pour un extrait de 2 secondes.
Pour un extrait de 2 secondes que j'avais utilisé sur mes vidéos. Alors qu'il travaille avec des journalistes qui sont très bien, genre Salomé Sake, Paloma Moritz, tout ça. J'adore. C'est des gens bien.
Salomé Sake, en termes
de. Salomé Sake, elle est trop forte et tout. Ouais, mais elle est talentueuse, en fait. C'est ça le truc. C'est que Denis Robert, c'est quand même un type qui. Préface le bouquin de Juan Branco et qui derrière te dit attention quand même aux complotistes. Mon frérot, tu les as fait monter et tu fais monter à travers Blast plein d'anarchos qui n'attendent que d'une chose, c'est que l'État avec un grand E s'effondre. Ceci étant dit, vous avez vu, je suis un peu plus piquant là, je suis un peu plus acerbe qu'il y a 2 ans, mais c'est pas grave, c'est l'expérience qui veut ça. Mais je pense que c'est normal d'être un peu plus piquant quand on est proche des 30 plutôt que quand on est proche des 20.
Ce qui fait l'intérêt aussi d'absurde acerbe à la base.
C'est oui, c'était des discussions à cœur ouvert. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis devenu un bobo gauchias hyper chiant qui parle pas.
C'est le marais, ça a changé.
C'est le marais. C'est les Véja, en fait, c'est amoindri à fond la parole politique. Non, pour parler de Serge Faubert, qui est pour moi l'un des journalistes les plus. Les meilleurs qu'on puisse avoir aujourd'hui sur la sphère Internet.
Il continue sa chaîne YouTube
Ouais, le Bourbon Pure Politique, ça s'appelle. Pure Politique. Un Bourbon sinon rien. Il a continué cette émission-là. Il s'est fait dégager de Blast, qui est un média indépendant. Ne parle pas de cette affaire de Taha Bouaf qui s'est fait dégager. Qui s'est fait dégager pour VSS, etc. Et comme il y a, évidemment, quand les journalistes sont à la fois dans les pots des militants et dans les pots des meetings, forcément, ils n'ont pas envie de casser leurs potes. Voilà. Comme quoi, le monde élitiste, il existe partout. Il existe à gauche, il existe à droite. Salomé Sake, dans son bouquin, elle met la méritocratie, selon Gaspard G, c'est lever des fonds avec Xavier Niel. Bon, en vrai, c'est
bonne... perdu.
Non, c'est
bonne guerre.
Un homme au sol.
C'est vrai que l'élitisme est dans tous les milieux, et même ceux qui prétendraient ne pas en être. Moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée ou quoi, j'avais fini, plus par curiosité qu'autre chose, mais j'étais allé dans un rassemblement NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, je sais pas quoi. Vraiment par curiosité, je crois qu'il y avait Besancenot, je voulais voir un peu sa tête. Et en fait, en parlant aux gens qui étaient autour de moi, c'est des gens ultra élitistes. Genre, si t'as pas lu toute la littérature, tout Marx de A à Z, et que tu l'as pas compris sur le bout des doigts, et que t'es pas un expert sur le sujet, t'es un peu vu de haut, tu vois.
Mais moi, je vais même te parler des coulisses de Backseat.
Ouais.
Les coulisses de Backseat, c'est qu'il y a le public qui arrive après l'émission, qui bouffe des petits... un espèce de snack, etc. Et qui écoute Usul comme un gourou. Comme un gourou. Les milieux de gauche sont aussi des milieux où il y a un fort élitisme intellectuel, où tu peux pas rentrer comme ça. Et moi, cette gauche-là, en fait, je vais te dire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai quitté Backseat. Moi, ça me débecte. Franchement, chacun fait ses expériences dans sa vingtaine et tout. Moi, c'est l'une des expériences qui m'a le plus déçu en politique. C'est ça, c'est de voir des milieux d'entre-soi qui, en plus de ça, défendent et dégomment ça chez leurs adversaires en disant « De toute façon, tous les bourgeois et tout, c'est de l'entre-soi, machin et tout. » Usul, il me disait à la fin de l'émission, il me disait « Tu te rends compte, moi qui suis un enfant d'ouvrier, parler avec toi, un enfant de bourgeois, je suis en mode genre, mon frérot, ça s'appelle faire société, en fait. Non, mais c'est un gars bien, mais c'est juste qu'il est névrosé à la mort et ça fait chier, quoi.
Je pense que certaines personnes s'enferment dans des concepts et peuvent pas en sortir, tu vois. Et après, ils voient tout sous le prisme. On en parlait justement avec certaines personnes dans des universités américaines avec... tu parles soit entre, soit t'es un oppresseur, soit t'es un oppressé. T'as ceux qui sont soit un ouvrier, soit un bourgeois, qui sont soit ceci, soit cela. Mais tu peux pas être forcément une nuance d'un peu différents concepts. Même si tu fais partie d'un concept, tu peux pas non plus avoir une vision détachée de tout ça. Tu peux pas avoir ta propre expérience personnelle.
Non, mais et ça d'ailleurs, mon ami Ulysse Manès a écrit un super article dans le Figaro Vox. A écrit un super article dans Causeur. Dans le livre noir, il y a une super rubrique. Non, je plaisante. Non, mais dans Figaro Vox, qui est la partie un peu opinion du Figaro, ça va, le Figaro, c'est les partis du champ républicain.
Pour le moment, oui.
Oh. Et il a écrit un article assez cool en disant qu'en fait, la promesse universelle française qui est de dire je te regarde sous le prisme de toi, humain, que tu sois homme, femme, noir, blanc, musulman, catholique, juif, jeune, athée, je ne te regarde que par le prisme du champ républicain, à savoir tu es français comme moi. J'ai fait une conférence il y a un an et demi, je parlais avec une meuf qui commençait chacune de ses phrases par « en tant que femme, musulmane, lesbienne, voilà ce que j'en pense ». Et j'étais en mode genre « mais en fait c'est dommage parce qu'on a envie de savoir, Safia, ce que t'en penses réellement, parce que ton prisme communautaire t'a invité à penser d'eux. Fais-toi ta propre expérience, parce que c'est faux. Évidemment, il y a des problèmes de racisme systémique, d'antisémitisme systémique, d'homophobie systémique dans notre société. Mais se rattacher toujours par un combat victimaire, le problème, c'est que ça ne permet pas du tout d'avancer. Ça crée juste un schéma où il y a un oppresseur et un oppressé, et où deux camps ne se parlent plus. Ça donne les réunions non mixité, des boomers qui s'excitent sur ces news. Et en fait, on a fait tout sauf faire avancer celles et ceux qui peuvent être un peu contradicteurs de ces progrès-là vers une forme d'acceptation de ces nouvelles formes d'existence. Mais que serait Absurde et Acerbe sans ces recommandations culturelles de fin ?
Alors, comme à ton habitude, on garde la fin pour un moment peut-être plus léger, un moment de qu'est-ce qui nous a un peu passionné, qu'est-ce qu'on a aimé regarder ces derniers mois, que ce soit à la télé, que ce soit dans nos librairies favorites. Commençons.
De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui, Greg ? Quelles sont tes recommandations culturelles de ces deux dernières années ?
Il y en a pas mal de choses qui sont sorties.
J'ai vu Avatar 1.
J'ai vu Titanic. C'est bien avec la 3D, là.
C'était vachement bien.
Je lis beaucoup de bandes dessinées ces derniers temps. Si tu veux, je peux t'en parler de 2-3 qui m'ont intéressé.
Avec grand plaisir.
Une des bandes dessinées que j'ai découvert assez récemment, qui m'a vraiment assez passionné, qui m'a vraiment intrigué, ça s'appelle Prison numéro 5. C'est par l'autrice kurde Zehra Doğan.
Ok.
J'espère que je prononce assez bien.
On s'excuse auprès d'elle et qu'elle n'hésite pas à nous faire une réclamation si elle écoute ce podcast.
Ça fait un répondeur de l'émission. Elle est la bienvenue. Non, c'est quoi, ça s'appelle Prison numéro 5. C'est fait par Zehra Doğan. Et en gros, pour la petite histoire, c'était une sorte de militante kurde, peut-être journaliste qui prend des photos. C'est un peu son portrait. Elle est vers la ville de Mardin, un peu dans le sud-est de la Turquie. Et en fait, pour avoir voulu informer, pour avoir fait partie des médias kurdes dans la région, elle s'est faite emprisonner dans une des prisons les plus insalubres, les plus pires de la Turquie. Mais en fait, pour la petite histoire, elle a fait cette bande dessinée depuis sa prison. Et en fait, elle était interdite de dessiner, elle était interdite d'écrire ou autre comme ça. Mais en fait, elle pouvait recevoir du courrier. Et en fait, son amie lui envoyait des mots. Et elle laissait toujours le dos de la page blanche pour qu'elle puisse dessiner sur cette page-là. Et en fait, après, elle réussissait à exfiltrer ces feuilles depuis la prison. Et ça a fait un ouvrage. Et c'est un ouvrage dans lequel elle raconte sa vie en prison, qu'elle raconte un peu l'univers politique dans lequel elle a grandi. Puis aussi, elle raconte l'histoire des Kurdes de Turquie, un peu leur oppression depuis les années 70, 80, et tout ce qui s'en est suivi. C'est super intéressant, et puis c'est un réel bel objet. Donc ça, c'est ma première recommandation. Je pense que vu qu'on est dans une période un peu de guerre avec l'Ukraine ces dernières années, avec le conflit israélo-palestinien, Hamas, pour commander un peu l'œuvre de Joe Sacco, qui a fait pas mal d'œuvres sur différents conflits autour du monde, notamment en Israël, en Palestine, dans lequel il a couvert différents conflits. En fait, c'est un peu limite la naissance du journalisme, du reportage BD. Depuis les années 90, je pense qu'il a inspiré tous ceux qu'on a pu citer dans le passé dans le podcast. Puis il a fait des très belles œuvres sur le conflit en Yougoslavie, à Sarajevo. Il a fait une très belle œuvre à Gaza. Il a fait beaucoup de trucs comme ça. Les dessins sont magnifiques. C'est vraiment super intéressant. C'est assez touchant. Puis regardons. Ouais, j'ai un compte Insta de bande dessinée.
Mais oui, parle-en.
Ça s'appelle Graphic Novel. gr.afficnovel. Voilà, c'est assez simple. Ça s'écrit comme ça se dit.
Donc, c'est animé par Greg. Greg a ce compte Instagram depuis peu, sur lequel il fait des recommandations culturelles de bande dessinée.
C'est ça. Mais en fait, à chaque fois que je lis un truc, je le poste, je fais un petit commentaire.
Dargaud, Delcourt, envoyez vos...
S'il vous plaît.
Envoyez vos dernières sorties pour Graphic Novel. Non, mais tu disais qu'il y avait quand même pas mal d'éditeurs qui commentaient, qui partageaient, qui interagissaient avec ce compte.
C'est ça, moi j'ai l'impression que c'est tellement un petit milieu, le monde de la bande dessinée, qu'à partir du moment où tu commences un peu à interagir avec, tu commences un peu à produire du contenu avec, je pense que les auteurs et les éditeurs sont très ouverts à tout ça.
Allez suivre Graphic Novel, GR.APHICNOVEL. C'était vrai. Hyper long, hyper laborieux. Moi j'ai envie de vous parler de Carnet de campagne, qui est une BD de Mathieu Sapin, Coco Peyo, qui d'autre?
Ah oui, c'était bien ça.
Pas Joanne Sfar. Bon, bref, j'ai oublié les autres qui avaient contribué. Mais en fait, c'est des auteurs de bande dessinée, des illustrateurs qui ont travaillé sur de la politique de manière générale. Coco Peyo, qui est devenu un ami par ailleurs, qui s'appelle Antoine dans la vraie vie, qui a créé une bande dessinée qui s'appelle Palais Bourbon, qui est assez excellente. Assez excellente. J'ai mis un euphémisme avant un adjectif superlatif. C'est quand même. Et Sam Mouloud, qu'est-ce qu'il est devenu, on ne sait pas.
Je ne sais pas, je ne l'ai plus vu.
Mais qu'est-ce qu'il devient, Victor Viktorovitch? Attends, mais nous sommes dans l'obligation de vous annoncer la disparition d'un homme. Un homme qui connaissait très bien Mouloud Achour, mais ce qu'il adorait particulièrement, c'était les figures de style. Clément Viktorovitch, après son ouvrage Rouge, il est décédé. Où est Clément Viktorovitch? Nous ne le savons pas. Nous pensons à toi, Victor. Tous les jours.
Fais-nous signe.
Si tu nous entends. Clément?
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 Les clés?
Clément? Où es-tu, Clément? Nous te cherchons.
Tu nous manques.
Et ce n'est pas un euphémisme. Clément Viktorovitch. Palais Bourbon. Oui, Palais Bourbon. Coco Peyo, qui a contribué à cette BD Carnet de campagne. Mathieu Sapin également, qui est un auteur qu'on ne présente plus parce que vous nous avez entendu déjà en parler 8 fois dans ce podcast et peut-être 103 fois depuis le début d'Absurde et Acerbe, qui a fait toute une série de bandes dessinées où il a suivi des présidents de la République, etc., des candidats. C'est assez extraordinaire. Découvrez son taf si vous aimez Absurde et Acerbe. Je suis sûr que vous allez adorer.
Il vient de sortir quelque chose, là, Edgar.
Il vient de sortir Edgar, qui nous a envoyé d'ailleurs tous les deux.
Oh.
Puisque c'est devenu un ami, mais un
proche.
Non, quand même pas. un homme qui existe, qui est là, qui m'envoie des réactions sur mes stories Instagram. Mathieu, c'est trop sympa. Il m'envoie des bravo pour les 700 000 abonnés. Il est trop marrant. Et il m'a fait j'ai un cadeau pour toi, je t'envoie ma BD. Et en fait, il me l'a envoyé une première fois, et puis c'était pas dédicacé. Donc je lui ai dit est-ce que tu peux me la renvoyer dédicacée? Il fait ok. Et je fais est-ce que tu peux m'en envoyer deux? Parce que j'ai mon meilleur pote qui vient à Paris, machin, et on aime beaucoup ton travail. Il m'a envoyé deux BD, toujours pas dédicacées. Mathieu, tu déconnes. Non, mais bref. Non, il est adorable. Et Carré de campagne, c'est une super bande dessinée où chaque dessinateur suit un candidat lors de l'élection présidentielle 2022. Et ça a été fait en un temps record, puisque ça a été diffusé un mois et demi après la présidentielle, enfin en juin 2022. C'est assez extraordinaire comme projet d'édition. Les encres, les couleurs et tout ça, elles sont sorties assez rapidement. Et c'est un projet qui est édité par Delcourt. On suit comme ça pendant un an un dessinateur qui suit un candidat. Et c'est une belle manière de redécouvrir la politique et de manière générale la campagne présidentielle en 2022. Pardon, excusez-moi.
Je suis sourd.
Allô?
Bonjour Julien.
Comment vas-tu?
Ça va et toi? Tu n'es pas seul? Est-ce que tu entends mon acolyte?
Salut Julien.
Et tu sais où tu es? Et tu sais où tu es là, Jus? Tu es dans tu es dans l'épisode qui s'appelle On a retrouvé les codes d'Absurde et Acerbe.
Ok, très fort.
L'épisode retour. Voilà, on voulait juste te faire un petit coucou de fin puisqu'on vient d'enregistrer un épisode et on s'est dit que ça te ferait plaisir de.
Coucou les gars, c'est un plaisir.
Voilà, on voulait juste.
Non, j'ai capté hier dans des stories que t'étais à Paris, je savais pas, c'est génial, je comprends.
Bah oui, avec plaisir. Ce soir, tu fais quoi?
Ce soir, je taffe jusque sur l'équipe de 21h.
Ouais.
Et après ça, je fais rien de particulier.
Parce qu'on a un resto vers 21h, mais on peut boire après.
Carrément.
Bah, je peux être très client.
Très, très, très client. Ok, on fait ça. Bah, juste, on voulait te faire un petit coucou, Juju, puisque on s'est rappelé que c'est par le biais de ce podcast qu'on a fait cette belle rencontre avec toi.
C'est vrai. Et on rappelle que Greg, au départ, a été chaud de me rencontrer et toi, Gaspard, pas du tout.
Il a une bonne mémoire.
Malheureusement, c'est juste. Malheureusement, c'est juste. Greg a toujours eu beaucoup de flair. Moi, j'ai toujours été un peu le mec en manque de flair, mais je suis ravi d'avoir eu.
Tu as d'autres qualités.
Bon, mais voilà. Pour ton info, on fait cet épisode juste comme ça, de nulle part. On va pas diffuser ça sur Instagram. Juste, l'épisode va juste sortir. Celles et ceux qui voudront voir auront l'épisode. C'est probablement un épisode qui fera pas beaucoup d'écoute, mais par contre, ça nous fait beaucoup rire d'avoir cette démarche-là et puis d'en republier un peut-être dans 10 ans.
C'est très sympa.
Quand
c'est
nous aurons nos enfants. Bon, voilà.
J'espère que j'aurai le privilège de recevoir le lien d'écoute.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça se passe sur absurdsr.com. Non, le nom de domaine, c'est...
Il a expiré, lui.
Il a expiré. On n'a pas renouvelé le nom de domaine. Bon, on t'embrasse, Juju. On voulait te faire ce petit coucou.
Bisous, les gars.
Allez, ciao. Bisous. Absurdsr, saison 3, épisode
1.
Et peut-être le seul. Peut-être pas.
Peut-être pas.
On ne sait pas.
L'année est longue encore.
Comment vous allez bien? Est-ce que vos proches vont bien? Est-ce que... Je suis en train de réaliser qu'il y a certainement des auditeurs qui sont morts depuis.
Sûrement.
Mais oui, c'est atroce.
Parce qu'on a des nouveaux auditeurs aussi.
Des auditeurs qui sont nés.
Non, qui a 3 ans.
Alors tout va bien, je revis. Je me replonge en enfance. Dans cette période montréalaise parisienne dans laquelle nous nous étions plongés, comme deux passionnés avec deux micros, des Shure SM58. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes sur des Shure SM7B.
Puis la plaque graphique, là, la Rode, elle est très belle.
La Rodecaster a changé. Elle a été défoncée un petit peu. On a
une
oreille sur deux qui fonctionne. Mais c'est ça la beauté. La beauté du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de reparler dans ces beaux micros et en espérant de vous revoir un jour.
On a repris le micro, comme certains diraient, dans une biographie. Et on re-range le micro. On ne sait pas quand est-ce qu'on y ressortira. Ça nous a fait plaisir de vous parler. C'était Gaspard G.
Et Grégoire Maillard.
En direct de Paris 11e pour Absurde et Acerbe saison 3.
Ciao.